Allez-y.
Très bien, merci. Vous m'entendez là, le micro est en route.
Oui.
Pas de problème au dernier rang. Ça va. Écoutez, on est, pour commencer, avec peut-être s'il y a un ou deux retardataires, je vais vous montrer quelque chose qui est très nouveau, puisque ça a à peu près un mois ou un mois et demi. Je vais vous montrer ce que c'est que le corium, c'est-à-dire ce que c'est que le cœur de Fukushima fondu au fond du réacteur. Ce sont des images extrêmement récentes. Je ne vais pas vous montrer tout le film, mais alors donc, c'est une approche qui est très compliquée, qui se fait par des pénétrations dans le cœur du réacteur. Là, vous allez voir, il y a une rotation, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'effacer une fenêtre, et ils vont pénétrer au sein du réacteur avec des engins miniaturisés, avec caméras, beaucoup de moyens de mesure. Ils vont pénétrer là-dedans, vous allez le voir avancer d'un seul coup. Je vais quand même raccourcir parce que le film est un peu trop long. Et vous voyez, donc ils s'approchent avec leurs caméras. Ils entrent maintenant, on entre à l'intérieur du réacteur. En face de nous, il y a une grande porte qui conduit à, sous la cuve du réacteur. Et là, on arrive à l'intérieur, sous le réacteur. Vous voyez l'eau qui tombe et voilà le corium. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est le corium. Vous voyez qu'il y a des tas de gouttes d'eau dessus. Ça vous montre que ce n'est pas chaud. Vous voyez l'eau qui ruisselle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas réussi toujours à faire une réfrigération comme on le fait d'habitude, des pompes. Et donc, on continue à arroser d'en haut. Ça ruisselle comme ça peut. Vous voyez que ça recouvre le corium que vous voyez. La caméra va un peu après tourner. Là, j'avance un peu plus vite. Là, vous voyez encore le corium. Et vous voyez ici un bout de métal qui est tombé par terre. Hein. Alors, vous voyez des bouts de tubes. Hein, qui doivent être des grilles. On voit quelquefois ce qui ressemble à des pastilles. C'est très varié. Si je vais encore un peu plus loin, vous voyez les parois. Donc il faut se souvenir que ça a été arrosé par de l'eau de mer. Il faut se souvenir qu'on a injecté du bord pour éviter qu'il y ait de surcriticité, ce qui fait que tout ça a quand même joyeusement rouillé. Vous voyez toujours l'eau qui coule avec des câbles. Et puis un peu plus loin, on devrait même voir le dessous des barres de contrôle, donc toutes les structures qui sont sous le platelage. Encore du corium. J'ai dû perdre le platelage, je ne sais pas où il est, voilà. Là, on est en train de regarder le dessous. Et là, vous voyez ici, je pense qu'on commence à voir le bas des barres de contrôle qui rentrent dans le réacteur par le bas. Donc là, on est vraiment sous la cuve. On est coincé entre ce qui reste d'uranium dans la cuve et ce qu'il y a comme uranium au fond. Donc ça, c'est pour vous montrer des images qui sont extrêmement récentes. Ce n'est que depuis fin 2007 qu'ils commencent à pouvoir faire des images du cœur du réacteur. Donc là, je vais l'arrêter. C'est juste pour vous donner un petit goût de la suite. Alors, maintenant, Fukushima, on va commencer à essayer de progresser. Je vais vous parler des accidents. Où on en est à Fukushima, mais peut-être un ou deux mots d'abord de Three Mile Island et de Tchernobyl. Pardon ? Non, non, on peut éteindre. Oui, oui. Voilà, c'est mieux. Alors, ça c'est un rappel, parce que je ne savais pas très bien s'il y avait des gens qui savaient bien ce qu'était un réacteur ou pas. Un rappel d'un réacteur tel qu'il est, vous avez la cuve du réacteur, ça c'est un réacteur du type français, on verra après ce de Fukushima, avec le cœur, avec le circuit primaire qui permet de refroidir, qui est lui-même tout entier dans une enceinte étanche. On trouve les trois barrières qui sont les gaines du combustible, le circuit primaire et l'enceinte, avec derrière tous les systèmes de sécurité qu'on peut imaginer. Donc là, c'est simplement pour faire un petit rappel, ça vous donne une idée pour réfléchir après à ce qui s'est passé à Fukushima. Alors, je rappelle qu'il y a des choses qui sont très importantes et dont on va servir tout à l'heure, c'est quand on veut contrôler un réacteur, il y a trois points très importants. La réaction en chaîne, et ça on verra que dans le cas de Tchernobyl, c'est ce qui n'a pas marché. Vous avez les relâchements de gaz et de produits de fission de radioactivité. C'est ce qui s'est passé à Fukushima et à Tchernobyl et extrêmement peu à Three Mile Island aux États-Unis. Et puis vous avez le dernier point que les gens réalisent peut-être moins, c'est l'évacuation de la chaleur. Ce qui est très spécifique dans le nucléaire, c'est que quand on arrête un réacteur, il continue à générer de la chaleur. Il continue à générer de la chaleur après son arrêt, et c'est ça son talon d'Achille. C'est-à-dire que si, dans une circonstance incidentelle ou accidentelle, on arrête le réacteur, mais qu'on n'est pas capable de continuer à le refroidir, on a une fusion de cœur. C'est ce qui s'est passé à Fukushima. C'est un point essentiel. Alors le pourquoi, je vous rassure tout de suite, c'est peut-être la seule, seule transparente physique que je vous présente, mais pour ceux qui ne sont pas très habitués, dans la fission, un noyau d'uranium, uranium-235, attaqué par un neutron, nous fait une fission qui va libérer deux produits de fission. Alors, des produits de fission, qu'est-ce que c'est ? Ben, y en a qu'on connaît bien, parce qu'on en a entendu parler dans les accidents. C'est l'iode, avec les problèmes de Tchernobyl. C'est le césium, qui contamine les sols. Mais c'est le strontium, c'est le barium, c'est le lanthium. C'est presque toute la table de Mendeleïev. Donc, ces fragments de fission sont des produits réactifs. Et dans leur décroissance radioactive, ils vont émettre des rayonnements qui vont être arrêtés par la matière, et tout ça, c'est, on part d'un état très excité vers un état moins excité, avec libération d'énergie. C'est ça qui fait la puissance résiduelle. Et après ça, cette puissance résiduelle, elle va durer longtemps, parce qu'il y a des produits qui ont une vie très courte, c'est-à-dire qu'ils disparaissent très vite, par exemple l'iode 135, l'iode 133. Il y en a d'autres qui vont un peu plus longtemps, l'iode 131, il lui faut 8 jours. Le césium 234, il lui faut 2 ans ou 2 ans et demi. Et le césium 137, il lui faut plus de 30 ans. Donc, on va avoir cette chaleur qui va décroître doucement. Et pour donner une image, parce que c'est important de se rendre compte ce que ça veut dire, vous prenez le cœur d'un réacteur comme Fukushima, c'est une pièce, c'est votre chambre. Quand vous voulez chauffer votre chambre en plein hiver, vous mettez un radiateur, il fait 1 kW. Eh bien, vous prenez un réacteur comme les réacteurs français qui font 1 gigawatt ou 1 million de kilowatts, donc 1 million de radiateurs électriques, hein, c'est l'équivalent comme puissance électrique. En fait, ils en font 3 millions thermiques. Mais ce que vous voyez, c'est que je l'arrête brutalement. Au bout d'une minute, il y a encore 150 000 kilowatts. C'est-à-dire, dans mon petit volume, qui est celui d'une pièce, j'ai 150 000 radiateurs d'un kilowatt qui dégagent. Au bout d'une journée, il y en a encore 17 000. Avec 17 000 radiateurs dans un petit volume comme ça, avec pas beaucoup de matériaux, vous comprenez pourquoi ça va commencer à fondre. Et ce que vous voyez, c'est que ça continue à décroître progressivement. Aujourd'hui, à Fukushima, on doit être à environ 30 ou 35 radiateurs d'un kilowatt dans chacun des réacteurs, c'est-à-dire plus grand-chose. Les cœurs, aujourd'hui, sont complètement froids. Je crois même qu'ils pourraient arrêter de les réfrigérer. Ça poserait pratiquement pas de problème. Donc ça, il faut se souvenir, je dis bien, c'est le talon d'Achille du nucléaire. Dans le nucléaire, on ne peut pas arrêter de refroidir. Ou alors, il faut attendre extrêmement longtemps. Des accidents, il y en a eu, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais parler uniquement des trois principaux. Three Mile Island, qui est très intéressant, parce que c'est un réacteur qui est très semblable au nôtre. Donc un retour d'expérience qui est très fort pour nous. Et puis, bien sûr, Tchernobyl et Fukushima. Alors, je vais surtout parler de Fukushima. Alors, dans Three Mile Island, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai mis ça pour ceux qui veulent le parcourir. Fukushima, qu'est-ce qu'on a appris ? Il y a eu des erreurs humaines. On n'avait pas encore bien... On faisait trop confiance au système. Three Mile Island, oui. Il y a des erreurs humaines. Il y a eu des... Alors, l'erreur humaine, c'est du style, il fallait fermer une vanne avant de démarrer le réacteur, et la vanne n'avait pas été fermée. Donc, quand il y a eu une condition incidentelle... Les gens ont cru que la vanne était ouverte, elle ne l'était pas. Il y a eu un autre cas, c'était une vanne qu'on voulait ouvrir. Ils l'ont ouverte. L'indicateur a dit vanne ouverte. Dans la réalité, elle s'était coincée, elle ne l'était pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fidélité du détecteur par rapport à la vanne. Ensuite, il y a eu encore une erreur qui était liée à une mauvaise interprétation. Et donc, un incident qui était relativement banal s'est transformé en un vrai accident. Puisque au bout de 2h15, il y a eu fusion du cœur, et ils ont encore pataugé pendant 2 heures avant de pouvoir faire l'injection de sécurité et refroidir le réacteur. Donc ça a énormément appris, parce qu'on a vu toutes les fragilités, à la fois de l'équipement et des hommes. Le résultat, ça a été celui-ci, c'est que vous avez, à l'intérieur du cœur du réacteur, ça c'est le cœur, ben vous avez une cavité d'environ, si je me souviens bien, 4 mètres cubes qui a été ouverte. Tout ça, c'était du corium, du cœur qui a fondu, qui était au fond. Il y avait un certain nombre d'éléments qui restaient encore relativement intacts, mais quand ils ont fini, quand ils ont réussi à refroidir, ça s'est figé dans ces situations. Donc depuis, en principe, l'intérieur de la cuve a été évacué, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout d'uranium, parce qu'il est évident qu'ils ne sont pas allés gratouiller un peu partout dans le fond, mais on peut dire que globalement, au niveau de Three Mile Island, à peu près tout a été évacué. Ils ont fermé le réacteur, ventilation en route, et on n'y touche surtout plus. Jusqu'à quand, je n'en sais rien. Il en est ressorti, point de vue médiatique, vous vous souvenez de ce qui s'était passé, là vous avez quelques premières pages de journaux, en fait, l'impact radiologique a été infime, même s'ils ont eu peur. Alors ils ont eu peur, pourquoi ? Parce que quand on fond le cœur d'un réacteur, vous avez de l'eau, vous avez du zirconium, vous avez du combustible, ça monte à très 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 haute température, et qu'est-ce qui se passe ? Le zirconium s'oxyde, se transforme en ZRO2, se libérant l'oxyde, il prend dans l'eau, il libère un hydrogène, et vous commencez à avoir de l'hydrogène qui se développe. Et donc, il y a eu une grande crainte à Three Mile Island pendant l'accident, parce qu'ils ont découvert que l'hydrogène était en train de venir. Il a fallu qu'ils fassent quelques petits relâchements pour dégonfler l'enceinte, éviter de remonter à des quantités d'hydrogène trop fortes. C'est comme ça qu'ils ont mis un peu de radioactivité dans l'atmosphère, mais très peu. Mais au total, c'est un accident qui n'a quasiment aucune conséquence. Alors, par contre, ça a eu un impact très important dans beaucoup de pays, et en particulier en France, c'est-à-dire que ça nous a fait réviser très très sensiblement la doctrine de sûreté. Grande attention aux facteurs humains, grande attention à la fidélité des moyens de mesure, puis comme je l'indique, on a fait plein de choses, des simulateurs à échelle 1, des formations, des requalifications obligatoires périodiques, la mise en place de systèmes experts, la mise en place de procédures hors dimensionnement qui permettent d'avoir des actions simples, de faire face de manière simple à des situations compliquées. Donc il y a eu énormément de travail et énormément de transformation. Et au point de vue pratique, on a rajouté des combineurs hydrogène, c'est-à-dire que les réacteurs français ont tous des moyens de supprimer l'hydrogène en cas d'accident. Et on a mis en place des filtres en sortie des réacteurs pour que quand on est obligé de dégonfler l'enceinte pour éviter qu'elle monte trop en pression, l'essentiel de la radioactivité soit bloqué à 98-99%. Avec comme idée que tant pis s'il y a un cœur fond, il ne faut pas qu'on ait de gros problèmes à l'extérieur. Donc ça a été une énorme évolution. Donc là, c'est ce que j'ai indiqué, les recombineurs et le dégonflage d'enceinte à travers un filtre. Tchernobyl, c'est complètement différent. Tchernobyl, c'est un réacteur très particulier. Une de ses priorités, on ne le dit pas beaucoup, c'était faire du plutonium militaire. On était en plein dans cette époque où, vous savez, on faisait des milliers de bombes tous les ans. Et c'était un réacteur qui était très singulier parce que le cœur, c'était un bloc dans lequel il y avait de l'uranium légèrement enrichi, du graphite et de l'eau. On mélangeait les trois. Et c'est un réacteur qui, sur un plan physique, était relativement instable. C'est un réacteur qui avait, ce qu'on disait, un coefficient de température qui était positif. Si la puissance augmentait, elle avait tendance à augmenter encore plus vite. De manière un peu schématique. Et ce qui s'est passé à Tchernobyl, c'est qu'à l'occasion d'un week-end, je crois que c'était le week-end du 1er mai, il y a un électricien qui avait une manip à faire, c'était le moment de partir en week-end, je veux faire ma manip, il chaîne toutes les sécurités, il fait sa manip électrique, le réacteur s'envole, il est monté à une puissance qu'on ne connaît pas, mais peut-être 100 ou 200 fois sa puissance nominale, explosion vapeur, parce que graphite, eau et uranium à très 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 haute température, ça fait une explosion, et une énorme quantité de produits de fission, mais aussi de combustible, est partie en l'air. Et avec en plus le graphite qui a brûlé, ce qui fait qu'il y a eu une espèce de cheminée qui a fait monter la contamination très très haut, et que ça a arrosé, disons, une bonne partie de l'Europe. Donc ça, c'est vraiment un cas particulier. Alors, là aussi, vous voyez apparaître un corium, ce qu'ils appellent la patte d'éléphant, qui est au fond du réacteur. C'est un bout du cœur qui a fondu. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je crois que c'est un accident qui est si spécifique que le retour d'expérience principal, c'est ce qui s'est passé à l'extérieur. C'est comment ça retombe, quelles sont les conséquences sur les animaux, quelles sont les conséquences sur la végétation, les problèmes de qu'est-ce qu'il faut faire dans des cas d'urgence comme ça, en termes d'organisation d'État, etc. C'est là-dessus qu'on a appris. Alors, une bonne nouvelle, grâce à deux maisons françaises qui s'appellent Bouygues et Vinci, depuis maintenant 18 mois, le réacteur est complètement enfermé dans une structure qui a été préfabriquée à côté, qui a été ensuite poussée sur des rails au-dessus du réacteur, qui se ferme complètement, comme vous le voyez. C'est gigantesque. Ça c'est la longueur de deux terrains de football, la largeur de quatre terrains de football, donc c'est huit terrains de football de surface, 110 mètres de hauteur, 25 000 tonnes, Et là-dedans, ils vont mettre 11 000 tonnes de matériel dont le job sera de venir découper ça en rondelles. Donc là, ma foi, c'est fait maintenant aujourd'hui, et grâce à l'Europe qui a tout payé. Combien de dizaines d'années ils vont mettre à faire et à mettre l'équipement, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ça veut dire que la situation aujourd'hui est très sûre et stabilisée sur ce site. Alors maintenant, je rentre sur Fukushima parce que c'est quand même le point essentiel pour moi aujourd'hui. Alors là, vous avez une vue de Fukushima aujourd'hui, avec les réacteurs accidentés qui sont là, les deux réacteurs qui n'ont pas été accidentés qui sont ici, toute la zone de stockage des effluents radioactifs, la zone de stockage des déchets, et puis tout le reste, c'est tout le chantier de travail avec station de traitement des eaux, etc. Alors, dans le cas de Fukushima, je crois que beaucoup d'entre vous devraient s'en souvenir, mais quand même un petit rappel, vous aviez quatre réacteurs, 1, 2, 3 étaient en marche, le 4 était arrêté, cœur déchargé. En revanche, le 4 contenait une piscine qui avait beaucoup de cœurs usés, en gros une douzaine, et puis il y avait les réacteurs 5 ou 6 qui étaient eux-mêmes à l'arrêt au moment de l'accident. Donc on peut dire qu'il y avait un réacteur sur deux qui était en marche seulement, qui est déjà une bonne chose. Quand la vague du tsunami est arrivée, eh bien l'eau, c'est ce que vous avez en bleu ici, elle a complètement envahi toutes les plateformes des réacteurs. Les plateformes étaient à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et était estimé à le moment de la construction par General Electric, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, les Japonais ne fabriquaient pas de réacteurs, ils les ont commandés clé en main aux Américains, et que ce sont les Américains qui ont fait des études de site. Et ils avaient déterminé un niveau de tsunami de 6 mètres. Globalement, donc, tout noyé, et puis là, une image qui vous permet de comprendre ce que ça veut dire, un tsunami. Hein. Donc vous voyez, il est 15h42, l'eau est en train d'arriver à 10 mètres de hauteur. Donc vous voyez l'eau qui est en train d'arriver ici. Là, vous avez une voiture. Là, vous avez un réservoir. Une minute après, regardez où en est le réservoir. Regardez où est l'eau. Une minute encore après, c'est le reflux de cette vague qui est déjà en grande partie partie. Et vous voyez qu'une dizaine de minutes après, pratiquement, le tsunami est fini. Mais vous avez tout le foutoir qui est ici. Donc ça, c'est le tsunami, ça vous montre une idée de son importance. Au total, ça a dû être entre 14 et 15 mètres. Alors là où on peut en vouloir, mais vraiment énormément aux Japonais, c'est que ça faisait une douzaine ou une dizaine d'années qu'il y avait des signaux qui leur disaient « attention, tsunami sous-estimé, attention, tsunami sous-estimé ». Et les gens de TEPCO ont décidé de ne pas le faire. Ça, c'est une autre image du tsunami hein, qui vous montre, vous vous rappelez ce que c'est. Ça, c'est une image où vous voyez un bateau sur un bâtiment d'un étage, hein, littéralement posé dessus, ça vous donne une idée. La salade de containers, une installation de pétrochimie en feu, enfin bon, c'est catastrophe. Vous voyez ici la vague qui est en train de submerger les arbres. Donc c'est une puissance absolument phénoménale. Et les Japonais de TEPCO ont décidé de ne rien faire en disant « Oh, quand même, c'est un peu exagéré, la probabilité est faible, je ne le ferai pas. » Il faut savoir qu'il y avait, juste au-dessus de Fukushima, un réacteur à Onagawa qui était encore plus près de l'épicentre du séisme, et qui lui est resté intact. Pourquoi ? Parce que le chef d'installation, quand en 2004-2005, on lui a dit « attention, tsunami peut être beaucoup plus important », ben lui, il a dit « oula, je vais faire quelque chose ». Il a protégé ses diesels, il a protégé sa source froide, il a été capable de refroidir ses réacteurs, et il était capable d'accueillir les gens de la ville, qui avaient été détruites, et d'en loger un certain nombre pendant pratiquement un mois. Donc, situation complètement différente. Alors, la chronologie, on la connaît, il y a eu le séisme, un séisme niveau 10, c'est absolument considérable, ça fait des déplacements de sol de plusieurs mètres, voire de dizaines de mètres au niveau de la subduction. À Onagawa, j'ai lu une fois, j'ai jamais vu confirmation, que le niveau du sol d'Onagawa était descendu d'un mètre. Hein, c'est pour donner une idée de ce que c'est. Donc, mais le séisme arrive, tout se passe bien. À Fukushima, 13 diesels démarrent, les réacteurs sont arrêtés automatiquement, et tout va bien. Et puis 45 minutes après, arrive le tsunami, et là, tous les diesels sont noyés, sauf un, celui qui est à côté des deux réacteurs les plus récents, des réacteurs 5 ou 6. Mais les réacteurs 1 à 4 se trouvent absolument sans diesel. Dans le même temps, le séisme a fait tomber toute la ligne électrique du secteur, plus d'électricité, leur seule source d'électrique, c'était des batteries, et puis ils avaient en plus une pompe une jet pump qui fonctionnait sur la vapeur du réacteur. Donc, énorme dégât. Alors, à partir de là, un réacteur très particulier, parce que ce n'est pas un réacteur comme les nôtres. Les nôtres sont des réacteurs à eau pressurisée, eux sont des réacteurs à eau bouillante, réacteurs type General Electric. Et ces réacteurs, ben regardez la tête qu'ils ont. L'enceinte de confinement, c'est une espèce de poire métallique. Le volume est à peu près 10 fois à 15 fois inférieur au volume de nos réacteurs. Ce qui veut dire que c'est une enceinte dans laquelle la pression peut monter très très vite. Deuxième caractéristique, ils ont un système de refroidissement très bizarre qui fait que quand il y a de la vapeur relâchée ici, elle vient barboter dans de l'eau qui permet de recondenser, ça permet de limiter la pression. Troisième caractéristique, c'est sous azote. Étant sous azote, après Tchernobyl, ils ont dit, nous, on n'a pas besoin de recombinant d'hydrogène. Parce qu'on est sous azote, donc il n'y aura pas d'oxygène, il n'y a pas de problème. Dernier point, c'est que tout ce qui est au-dessus, ce sont des halls légers, structures métalliques avec des plaques de béton. Donc quand on a vu les accidents avec les halls qui s'envolaient, il faut savoir que ces halls n'étaient pas du tout faits pour résister à une pression quelconque. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'une heure, quand le cœur a cessé de refroidir, petit à petit, il est monté en température, ça a commencé à bouillir là-dedans, la pression est montée dans l'enceinte, elle est montée tellement qu'il a commencé à y avoir des ruptures d'étanchéité un peu dans tous les coins. Le cœur ayant fondu, l'eau très contaminée a pratiquement tout envahi, y compris les zones extérieures, les tranchées qui allaient vers la mer, tout a été envahi par des eaux très contaminées, et ils ont été obligés de faire des relâchements de vapeur pour éviter que tout se dégrade. Et en lâchant la vapeur, ils ont lâché l'hydrogène. L'hydrogène est parti dans l'atmosphère extérieure et dans les ventilations, et on a commencé à avoir les explosions. Donc ça, c'est le resti de Fukushima. Ça, c'est une vue plus réaliste, où vous voyez la poire, où vous voyez le hall léger là-haut, vous voyez les piscines de combustible, on en parlera tout à l'heure, puis vous voyez cette espèce de système bizarre de réfrigération. Donc, dans cette chronologie, il faut voir que pratiquement l'accident a évolué très très vite, au bout des 45 minutes. Et il y a eu une décision qui a été très forte du gouvernement. Ils ont, le soir même, décidé d'évacuer d'abord 2 km de la centrale, puis le lendemain matin à 10, puis dès le lendemain à 20 km. Et donc ils ont pris une décision d'évacuation très rapide, qui a été une bonne décision. Ce qui a été une bonne décision. Et on a eu l'image qu'on a tous vue à la télévision, avec les explosions de vapeur. Hein. Ça, c'était le réacteur 1. Au moment où le réacteur 1 explose, vous voyez que les trois autres réacteurs sont encore intacts. Ça, ce sont les deux réacteurs qui n'ont pas été accidentés. Et puis, ce qui s'est passé dans les 8 jours qui ont suivi, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez du 12 au 19 mars. Eh bien, vous commencez à avoir première explosion le deuxième jour sur le bloc 1. En rouge, ce sont les explosions successives sur tous les réacteurs. En bleu, ce sont les tentatives désespérées des exploitants de dégonfler un peu les enceintes pour éviter que ce soit encore plus catastrophique. Était-ce une bonne idée ou pas, je n'en sais rien. Mais on a vu donc toute cette série qui conduisait à des relâchements de radioactivité qu'on voit apparaître sur ces pics. Donc ça, c'est l'histoire. L'évacuation, ben voilà ce que ça a fait. On a dû évacuer jusqu'à environ 45 km. Vous avez ici le rayon de 20 km, ici le rayon de 30 km. Il y a eu près de 80 000 personnes évacuées entre le 12 et le 15 mars. Ensuite, au-delà du 15 mars, ils ont recommandé à 60 000 personnes de se mettre à l'abri, si on sort le moins possible dehors, et éventuellement, si on a des parents qui habitent un peu plus loin, on y va. Et puis ensuite, il y a eu des évacuations dites d'évacuation délibérée, parce que vous avez eu, ce qui se passe, c'est que vous avez un panache radioactif qui est dans l'atmosphère, qui est emporté par les vents, mais pour peu que ce panache passe à un endroit où il y a des pluies, l'eau de pluie, entre guillemets, décontamine l'atmosphère, mais elle fait tomber sur le sol. Ce qui fait qu'on s'est trouvé avec ce qu'on appelle un système en tache de léopard, où vous voyez apparaître des zones très particulières, un peu perdues dans tous les coins, où il y a eu une contamination plus forte, et où on a pu être amené à demander à des gens d'évacuer, au moins pendant quelques temps. Donc ça, ces résultats, c'est quand même considérable. Hein. Je crois que cette dimension de 45 km le montre bien. Alors derrière ça, de manière un peu schématique, je vais vous décrire les grands chantiers prioritaires tels qu'ils se sont déroulés dans le temps. Parce que non seulement Fukushima était en catastrophe, mais le tsunami avait fait 17-18 000 morts. Toutes les industries qui étaient autour avec leurs sous-traitants par terre. Le gouvernement faisait ce qu'il pouvait en termes de gouvernance, c'était pas évident. Donc il y a eu des chantiers. Alors le premier chantier, ça a été de réfrigérer. Et pour réfrigérer, ben, vous gardez les images des hélicoptères qui viennent déverser de l'eau, des gens qui viennent avec des lances de pompiers, alors que ça crachait quand même beaucoup, et qui tentaient d'arroser. Et en fait, la seule bonne solution qu'ils ont trouvée au bout d'un certain temps, et celle qui a marché pendant pratiquement un an, ça a été d'amener ce qu'on appelle des pompes à béton. Vous avez déjà vu ça. Vous avez une pompe à béton en bas. Ce sont des instruments très puissants qui permettent de faire monter du béton à 20 ou 30 mètres de hauteur. Et bien, ils les ont utilisés pour faire remonter de l'eau de mer. Donc, ils ont mis des pompes à béton, vous en voyez une ici, qui balance de l'eau de mer au-dessus en espérant que ça arrivera au cœur. En sachant que le cœur, il est enfermé dans une cuve complètement. D'accord ? Donc, pas évident. Donc, ils ont arrosé ça à l'eau de mer. Ils ont rajouté du bord parce qu'il y avait des crises de criticité, et au bout d'un certain temps, ils ont été capables de remplacer ça par des pompes électriques en amenant l'électricité et en allant chercher de l'eau douce. Mais ça a donc été très très long, ça a été des mois et des mois. Alors là, à partir de là, j'ai été un peu méchant pour les Japonais parce qu'ils ont vraiment fait ce que j'appellerais une connerie majeure, hein. Alors maintenant, je vais rentrer dans un autre mode pour vous dire que les Japonais ne sont pas des Ukrainiens. Et je peux vous dire qu'ils se sont mis au boulot et que le boulot qu'ils font est absolument remarquable. Moi, je suis très impressionné de ce qu'ils font et la vitesse à laquelle ils le font. Alors, pour vous donner un exemple, c'est qu'il y a eu une grande crainte sur le réacteur 4, pourtant qui était à l'arrêt, parce que ce réacteur 4, comme je vous le disais, il contenait une douzaine de cœurs usés. Une douzaine de cœurs usés, c'est énormément de césium. Et ce qui fait peur pour l'environnement, c'est que le césium aille arroser le paysage, parce qu'il a une durée de vie très longue. Donc, Le bâtiment avait été très ébranlé par un hydrogène qui était arrivé par une cheminée de ventilation commune. Tout le hall avait explosé. Eh bien, regardez, entre 2011 et 2013, en 2 ans, ils ont construit une énorme structure ancrée sur le sol à côté du réacteur pour ne pas peser sur le réacteur. Et puis, en surplomb, ils ont construit un gigantesque hall de manutention avec les ponts roulants, tout ce qu'il fallait pour venir nettoyer l'intérieur et aller récupérer les éléments combustibles un par un, avec des châteaux de plomb d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de tonnes. Et donc, ils ont, à partir de 2013, en un an, ils ont évacué les 12 cœurs usés pour les amener dans un lieu sûr. Donc là, travail remarquable fait en 2 ans. J'ai un peu de mal à imaginer dans la sûreté française, l'organisation française, qu'on soit capable d'aller aussi vite. Peut-être qu'en cas de crise, on y arriverait, mais très exceptionnel. Donc, premier chantier, il faut savoir que le deuxième chantier, le réacteur 3, est en cours. Ça, c'est une photo qui date de décembre. Là, vous voyez un nouveau hall qui a été construit à 30 km de là et qui a été amené par barge, qu'on vient d'installer. Il est posé sur toute une structure qui entoure le réacteur pour porter son poids. Vous voyez la machine de déchargement. Et en principe, cette année, ils vont décharger ce réacteur. Il faut voir l'état initial du réacteur. Tout ça a été éliminé. Parce que là, c'est un réacteur accidenté, c'était donc radioactif. Tout ça a été éliminé avec des grues radio-télécommandées et avec des gens, quand ils y allaient, qui étaient dans des petits véhicules blindés. Donc, quelque chose de très sérieux. De la même manière, ils sont en train de préparer sur le réacteur numéro 1. Vous avez ici un robot, qui est un robot nettoyeur, qui est en train d'aspirer tous les gravats et qui les évacue. Donc ça, c'était le chantier très important. Quatrième chantier très important, c'est... l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, vous arrosez, et vous avez vu qu'il y a, le mois dernier, ils étaient encore en train d'arroser. L'eau qui tombait d'en haut. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que, ils ont arrosé pour refroidir, et puis, à un certain moment, pour éviter que toute cette eau très contaminée parte dans le sol et parte vers la mer, ils ont commencé à pomper au fond. Ils pompaient de l'eau, ils ont construit de neuf d'énormes installations de traitement des effluents liquides qui les ont décontaminés. Puis cette eau était pour partie réinjectée pour refroidir et pour partie stockée. Donc ils ont fait ça et ils font ça depuis 6 ans. Et aujourd'hui, ils ont pratiquement stocké, au départ c'était 400 mètres cubes par jour d'eau très contaminée qui était pompée et recyclée, et ils ont aujourd'hui un stock d'un million de mètres cubes d'eau épurée, quasiment non active, mais qui n'ont pas encore réussi à évacuer dans la mer, parce qu'il y a une grande difficulté à convaincre la population que c'est la bonne méthode. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça? Là aussi, une chose assez considérable, c'est qu'en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez une nappe phréatique qui est à ce niveau-là. Donc au départ, elle faisait ça. Comme ça, c'était pas étanche, elle traversait le réacteur, elle traversait le sol, et elle arrivait dans la mer. C'est ce qui s'est passé pendant des années. En 2014, ils ont commencé par faire des puits de drainage qui leur ont permis de faire ce qu'on appelle un rabattement de nappe. C'est-à-dire qu'ils ont ramené le niveau de l'eau au niveau minimum pour que le niveau extérieur soit supérieur au niveau intérieur, pour faire en sorte qu'en pompant ici, il y a très peu d'eau qui repart vers le sol. Donc là, ils ont ajusté le niveau de la nappe en pompant et ça s'est rejeté dans la mer. Deuxième étape, ils ont complètement fermé côté mer. Alors ça veut dire qu'ils ont mis un mur étanche qui descend à 27 mètres de profondeur dans un sol étanche. Et à l'amont, ils ont là aussi des moyens de pomper, une station de traitement des effluents. Et donc depuis 2015, ils pompent l'eau ici, ils l'épurent avant rejet en mer. C'est-à-dire que maintenant, cette eau qui diffuse sous le réacteur ne va plus vers la mer. Troisième étape, encore plus spectaculaire, ils ont décidé de faire... d'enfermer le réacteur complètement dans une boîte avec l'idée de pouvoir assécher à un moment ou à l'autre et d'arrêter d'arroser. Alors pour ce faire, ce n'était pas évident parce que là aussi, il faut descendre à 23 mètres. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ça, c'est le premier mur imperméable qu'ils ont fait le long de la mer. Il fait 800 mètres de long. Les poteaux font 27 mètres de haut avec tous les moyens de traitement. Et puis, ce qu'ils ont fait pour isoler les réacteurs, eh bien, ils ont fait ce qu'on appelle un mur gelé. C'est-à-dire que tous les 1,50 m, vous avez des tuyaux d'un liquide réfrigérant qui descend jusqu'à 27 mètres de profondeur, qui est à moins 30, moins 40 degrés. Ils gèlent le sol sur 3 mètres d'épaisseur, font ça sur les 1500 mètres de tour des 4 réacteurs, et ils ont commencé à geler ça en 2016. Ils ont une autorisation d'abord partielle pour voir comment ça marchait, qui a pendant un an, et depuis l'été dernier, ils sont en train de fermer la totalité. Alors, pour le moment, ils ne sont pas encore arrivés à étancher. Personne ne sait s'ils vont y arriver réellement. Mais là où au départ, il y avait 400 mètres cubes, avec tous les pompages amont, ils sont descendus à 200 mètres cubes. Et là, maintenant, ils sont descendus à 90. Donc, ils ont déjà pas mal gagné. Et ils espèrent pouvoir assécher. Ça a coûté 250 millions d'euros. Hein. C'était une grosse manip. Et ça vous donne une idée de ce que c'est. Hein. Vous voyez, c'est tous les tuyaux de réfrigérant qui sont ici et la station de froid. Hein. Alors tout ça a été construit à proximité immédiate du réacteur, bien sûr. Le résultat de tout ça, c'est que l'eau qui part à la mer sortant de Fukushima, césium-134, sans traitement, ne sont pas détectables, sont probablement à un facteur 100 en dessous des normes eau de boisson, de même pour le tritium. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, au niveau des rejets en mer, ils sont quasiment annulés. Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, la situation est stabilisée, 95% du site est accessible sans masque et protection lourde, ce qui était loin d'être le cas au départ. Donc, ils ont beaucoup nettoyé le site. Là, ils ne pouvaient pas nettoyer, ils ont bétonné hein, pour enfermer de la contamination. Ils ont aussi bétonné pour éviter que l'eau de pluie vienne réalimenter. Donc, gros travail. Donc maintenant, ils rentrent dans la phase qu'est-ce qu'on va faire de ces installations, en sachant qu'ils ont une volonté forte de les démanteler, contrairement à ce qui s'est passé à Tchernobyl ou à TMI. Alors le corium, là, on l'a vu tout à l'heure, je rappelle ce que c'est un magma infâme. Le corium, c'est un mélange d'uranium, de zircone, de métal, de bore, de sels variés et divers qui viennent de l'arrosage, mais également des réactions avec le béton. Donc vous avez cette espèce de magma infâme que personne ne connaît bien, qui est un peu différent de celui de Three Mile Island, parce que Three Mile Island, ils n'ont pas atteint le béton. Puis ce n'était pas tout à fait les mêmes exemplaires. Alors, là-dessus, ce qui se passe, ça, cette tête-là, vous avez le fond de la cuve du réacteur, ça, ce sont les barres de contrôle qui, dans ces réacteurs, arrivent par le dessous, qui est un peu un point fragile. Là, il y a un platelage sur lequel le personnel peut, en entrant par ici, venir faire la maintenance des barres de contrôle. Et c'est ce passage qui permet d'aller voir ce qui se passe ici, avec le platelage qui a pour le moment été percé et le corium qui est ici. Et ce qu'on voit apparaître, c'est qu'aujourd'hui, le seul moyen d'accès à cette zone-là, c'est par le biais de trous comme celui-là, en amenant des perches avec des petits instruments au bout, alors que la radioactivité ici est bien sûr intense. C'est-à-dire les appareils qu'on y amène avec des optiques, avec des électroniques, ils ont quelques heures de durée de vie, et on les ramène et il faut en mettre un neuf à la place. On n'en est pas encore au niveau de durcissement voulu. Donc là, vous avez un exemple de cheminement, et là, vous avez une photo du platelage que je vous ai montré sur lequel viennent les travailleurs pour réparer les barres de contrôle, et vous voyez que ce platelage, visiblement, a reçu un grand coup sur la tête, puisqu'il est complètement effondré. C'est le corium fondu qui est descendu dessus. Donc tout ça sont des images qu'on a seulement depuis un an maintenant, à peu de choses près. Là, ça vous donne un exemple de désinstrumentation. Ça, c'est tout petit. Ça a cette taille-là. C'est un micro-mécanisme relativement blindé qu'on a fait pénétrer. C'est le petit film que vous avez vu tout à l'heure. C'est une perche qui a pénétré ici. Puis ensuite, il y a une deuxième boue qui est télescopique qui vient là. Puis après, il y a un câble avec ce qui pend ici. C'est un moyen qui est capable de tourner dans plusieurs sens, qui est capable de mesurer la radioactivité et de faire des photos et d'éclairer en même temps. Donc là, vous avez les images qu'on a vues tout à l'heure. On a dû la voir celle-là et celle-là. Et le dessous. Alors tout ça est très important parce que comment démanteler ? À Shima Island, ça a été relativement simple. Parce que ils n'ont pas perdu d'étanchéité. Donc, ils ont rempli la piscine au-dessus du réacteur, ils ont ouvert le couvercle sous l'eau, on est parfaitement capable d'épurer l'eau pour qu'elle ne soit pas trop contaminée, on met même une couche de chaude en surface qui vous protège, on fait ça de manière classique dans des réacteurs, et donc, ils ont ouvert le réacteur, et puis, avec des grappins de la surface, ils sont allés gratouiller, chercher, ramasser, etc. Dans le cas de Fukushima, ils n'ont pas ce moyen. Pourquoi ? Tout simplement parce que rien de tout ça n'est étanche. C'est-à-dire le niveau de l'eau, il est quelque part comme ça. Et d'ailleurs, il n'est pas le même sur les trois réacteurs. La solution idéale serait qu'ils réussissent à réétancher le bâtiment pour pouvoir tout remplir d'eau et travailler à partir du haut. Ça paraît très peu probable. Parce que les pertes d'étanchéité, elles sont sur des pénétrations assez grandes et puis c'est même difficile à les repérer. Ils ont essayé, ils n'y sont pas arrivés pour le moment. Donc il y a toute chance que pour faire de la récupération de corium, il va falloir passer par des voies qui sont peut-être créées à travers les parois, peut-être par ces voies-là, mais on ne sait pas bien. Donc ils sont dans une situation qui est beaucoup plus complexe que celle de Shima Island. Alors, j'arrête, c'était pour vous donner une idée de ce qui se passe sur le site. Un travail époustouflant des Japonais. Encore une grande fragilité, je parle au niveau gouvernance du pays, de l'autorité de sûreté, des préfets locaux. Il est un peu insensé qu'on ne les ait pas encore autorisés à rejeter une eau qui était devenue quasiment inactive dans la mer, où elle se dilue, où elle disparaît, ce qui complique beaucoup la tâche des exploitants. Alors, quand même parler un peu de radioactivité pour ceux qui ne sont pas habitués, je vais vous donner quelques chiffres. Sans chiffres, on ne peut pas juger. Mais encore faut-il comprendre les chiffres. Alors, je vais vous faire un tout petit rappel de physique. La radioactivité, elle se mesure en becquerel. Un becquerel, c'est un atome qui se désintègre. Un seul atome. C'est une unité absolument microscopique. C'est une unité physique. Nous, vous, toutes, toutes et toutes, on fait 100 becquerels par kilo. Donc, si vous pesez 60 kilos, vous faites 6000 becquerels. Si vous pesez 100 kilos, vous faites à peu près 10 000 becquerels. Donc nous sommes radioactifs. Pour les produits de consommation courante, je les mets ici, ça peut aller de quelques dizaines à quelques centaines de becquerels par kilo. Donc ça, c'est la nature. Toute la nature est faite comme ça, on est radioactif, on fait entre quelques dizaines et quelques centaines de becquerels par kilo. Après ça, un becquerel, c'est une unité physique. Si on vous envoie un kilo de plume, ça va vous faire rire. Si on vous envoie une flèche ou une sagaie d'un kilo, vous rigolez moins. Mais elles font toutes les deux un kilo, font toutes les deux un becquerel. Donc il faut traduire la dangerosité, et là on a ce qu'on appelle une unité qui est une unité médicale, une unité biologique, qu'on appelle le millisievert. Et donc on va traduire les becquerels que nous représentons en millisievert, qui sont l'impact sur les gens qui sont autour de vous, parce que si vous, vous faites 5000 becquerels, vous êtes en train d'irradier madame, qui fait d'ailleurs elle-même 5000 becquerels, donc c'est croisé. Donc c'est comme ça que ça marche, d'accord ? Donc retenez bien ça. Et là, je vais donc vous donner deux remarques. Le becquerel, c'est le moyen qu'a un antinucléaire de faire peur, parce qu'on peut annoncer des chiffres énormes. On vous dit facilement, vous vous rendez compte, j'ai mesuré 100 000 becquerels. Bon, ça fait très très peur, 100 000 becquerels. En fait, c'est quasiment zéro, parce que c'est 100 000 atomes. Quand on va parler d'impact sur la santé, on va donc parler de millisievert, et vous allez oublier les becquerels complètement maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est dans entre 2 et 4 millisieverts. Ça dépend si on a un terrain granitique ou autre. C'est ce qu'on reçoit tous les ans en France. Et les doses que nous recevons, elles viennent de la médecine, alors plus ou moins, suivant qu'on est plus ou moins malade, de la maison, qui a du radon, du corps humain lui-même, on s'auto-irradie nous-mêmes, des rayons cosmiques, des rayonnements terrestres. Donc, plus de 99% de la dose qu'on reçoit en France vient de notre milieu naturel ou de la médecine, et tout le reste, ça vient des retombées nucléaires, des réacteurs, etc. Alors tout ça, bien sûr, est variable suivant les endroits, suivant que vous habitez plus ou moins loin d'une installation nucléaire. Mais gardez ce chiffre de 2 à 3 millisieverts. Très peu de chiffres. Hein. Si vous regardez au niveau du monde comment ça se passe, eh bien, si vous êtes en France et que vous êtes quelqu'un qui vit une vie paisible dans un endroit très agréable, vous êtes à 2. Si vous recevez des doses médicales et que vous aimez beaucoup les poissons, parce que les poissons sont plus radioactifs, vous allez être à 3 ou 4. Si vous êtes un jeune cadre dynamique qui prend l'avion, qui fume, qui aime bien aller au ski, vous allez être à 10 millisieverts. Donc, vous voyez, ce chiffre de 2 millisieverts, ce n'est pas un chiffre sacré. Il va falloir qu'on compare médicalement après. Si vous allez en Inde, dans le Kerala, dans le sud de l'Inde, c'est 40 millisieverts ou 60 millisieverts, parce qu'ils vivent pratiquement sur du minerai de thorium. C'est également vrai au Brésil, c'est également vrai dans certaines zones en Iran. Donc, c'est très variable. Donc, attention à la sacralisation quand on va parler de normes. Que disent les normes internationales ? Eh bien, elles disent que pour vous et moi, on n'a pas le droit de nous injecter plus d'un millisievert de radioactivité artificielle en plus de celle qu'on reçoit par la médecine et par la nature. Un millisievert. Alors, pourquoi un millisievert, quand je compare aux 40 millisieverts du Kerala, on peut se poser la question. J'appelle ça excès de précaution. Qu'on en discute avec les responsables de la sûreté, ils vous disent c'est pour vous pousser à l'excellence. Ce qui est vrai aussi. Hein. Mais donc, un millisievert. Pour les travailleurs, on a fixé des doses qui sont, c'est variable suivant les pays, c'est entre 20 et 50 millisieverts par an, et en général, moins de 100 millisieverts sur 5 ans. Donc on accepte plus. Donc un travailleur du nucléaire en France, il a le droit de prendre au maximum 20 millisieverts par an. C'est moins de la moitié de ce qu'ils reçoivent au Kerala, en gros. Donc, on en est là. Alors retenez bien ces chiffres, parce que c'est avec ça qu'on va comparer ce qui se passe par ailleurs. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que je ne suis pas médecin, mais je vais vous faire deux transparents médicaux. C'est bien de comprendre d'où vient notre risque. Le risque, il vient... Le cancer, il vient de problèmes qu'on peut avoir avec nos ADN. Ça vient de l'ADN. Qu'est-ce qui se passe dans l'ADN ? C'est que l'ADN, il est attaqué tout le temps. Parce qu'on a des processus oxydatifs, etc. Et donc, quand on regarde l'ADN, ben, chaque cellule, avec son ADN, a 3000 ruptures par jour, à peu près. Ou une dizaine de ruptures à double brin qui sont un peu plus graves. Donc on a, nous, un ADN qui est fait pour s'auto-réparer et qui est fait pour résister à cette attaque permanente, naturelle. Quand je rajoute du nucléaire, je rajoute une attaque supplémentaire. Je rajoute des cassures simples double brin supplémentaires. Qu'est-ce que disent les médecins ? Ça vient du professeur Ringo. Ils disent que finalement, on peut dire qu'il y a, je prends 100 millisieverts. Alors 100 millisieverts, je vous rappelle, la France c'est 2 à 4, le Kerala c'est 40, un travailleur c'est 20 par an. Ben, ce qu'on dit, en dessous de 100, on est dans les faibles doses, on voit, il n'y a pas d'impact mesurable. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, je dis que c'est absolument pas mesurable. Au-dessus de 100 millisieverts, on commence à dire qu'il peut y avoir un impact qui vient de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on monte en dose. Donc ça, c'est une espèce de règle du pouce. En dessous de 100 millisieverts, en fait, vous avez une réparation de l'ADN qui se fait tout seul, et c'est l'intégralité du génome. Si la réparation ne se fait pas bien, la cellule se suicide, assez naturellement. C'est-à-dire qu'il y a une autodéfense chez nous qui fait que la cellule se suicide et disparaît, et est remplacée par une autre. Quand on passe sur les fortes doses, alors là, ce n'est pas 100 millisieverts, hein, on est probablement à 10 ou 20 fois plus. Là, à ce moment-là, la cellule a du mal à s'auto-réparer, l'ADN a du mal à s'auto-réparer. Donc, il peut y avoir des mutations qui conduisent à une mort de la cellule ou qui peuvent conduire à une cellule qui peut déclencher un cancer. Donc, c'est comme ça qu'on raisonne. Donc, retenez bien cette valeur de 100 millisieverts qui peut se discuter, hein. Ce n'est pas une valeur sacrée. Hein. C'était pour vous donner des ordres de grandeur. Alors, ce qui s'est passé à Fukushima, hein, en termes d'impact, eh bien, c'est que la radioactivité, qui a été bien sûr très très forte le premier jour, elle descend très vite. Vous voyez que pratiquement au bout de 20 jours, on était descendu à 3 par rapport à 19 au premier jour. Hein, donc il y avait déjà eu pratiquement un facteur 7. Et puis ça continue à descendre ensuite au fur et à mesure que les produits de fission à vie courte disparaissent. Donc fin 2011, en gros, vous avez ici les doses qui étaient de l'ordre d'une dizaine de millisieverts par an. C'est qu'on était déjà à des doses assez faibles. Fukushima, ils ont eu de la chance parce que pendant les deux premiers jours, ça partait vers la mer. Et la deuxième chance, c'est que comme les vrais relâchements ont eu lieu au bout de 2, 3, 4 jours, il y avait déjà beaucoup de produits de fission à vie courte qui avaient disparu. Alors là, vous avez les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé qui ont été faits en liaison avec les Japonais. C'est évident que les centaines de milliers de gens qui habitaient là n'avaient pas de dosimètre. Donc au départ, on n'avait aucune idée de ce qu'ils avaient pris comme dose. Donc ce qu'ils ont fait, il y a eu une cartographie complète du pays qui a été faite par hélicoptère par les Américains, une première, puis il y en avait d'autres après, beaucoup plus fines, qui leur ont permis de faire une cartographie de la contamination du pays. Après ça, les gens ont été pris un par un et ont été questionnés sur ce qu'ils avaient fait pendant les deux ou trois premiers jours avant d'avoir été évacués. Est-ce que vous étiez dans la maison? Est-ce que vous restiez dehors? Est-ce que vous avez... Quelle était votre vie? Et à partir de là, ils ont fait des reconstitutions de doses sur 400 000 personnes. C'est assez extraordinaire. Hein. Ça a été fait très, très, très vite dans les premiers mois. Et qu'est-ce qu'on constate sur les 400 000 personnes? Eh bien, en gros, qui ont été au-dessus de 5 millisieverts, c'est-à-dire un peu moins qu'un cadre dynamique en France, hein, je rappelle, eh bien, il y en a seulement environ un millier par rapport aux 400 000. Le maximum de doses a été de 25 millisieverts. Donc à peine plus que la dose annuelle autorisée pour un travailleur du nucléaire. Donc ça, c'est une bonne surprise. La décision d'évacuation a été efficace, a été utile et a bien fait son rôle. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que là, vous avez la même chose, les mêmes 400 000, par gamme d'âge. Parce que là, vous vous rappelez qu'on s'inquiète toujours beaucoup des enfants de moins de 18 ans en cours de croissance, parce qu'ils sont plus sensible au rayonnement. Et donc là, de la même manière, ils ont fait des reconstitutions de doses. Et que dit l'Organisation mondiale de la santé? C'est que sur les, alors vous voyez, 65 000 de moins de 10 ans et 58 000 entre 10 ans et 19 ans, et bien sur ces 120 000 enfants, il n'y en a que 50 qui étaient au-dessus de 5 millisieverts. C'est-à-dire très faible. Faut savoir, par exemple, qu'ils ne font pas de lait. Donc ils sont tous sur du lait importé ou du lait en poudre. Donc il n'y a pas de problème de ce type-là. Donc globalement, et ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, ça a été fait en 2011-2012, ce qu'ils ont dit en 2015-2016, ils ont dit on a probablement surestimé ça de 30 à 70% suivant les cas. Donc les renseignements supplémentaires disent c'est plutôt dans le bon sens. En ce qui concerne, je ne vais pas passer trop de temps dessus, parce que c'est... Vous avez vu que les enfants ont été très peu irradiés. Très peu de problèmes d'iode. Il faut savoir qu'ils mangent beaucoup de poissons. Et que grâce à ça, ils ont des thyroïdes qui sont chargées en iode naturellement. Alors qu'à Tchernobyl, ils avaient de véritables éponges à iode en eux, parce qu'ils étaient sous-iodés. Donc là, facteur favorable. Bon, en gros, ce qu'on peut dire au niveau des cancers de la thyroïde, ils ont fait d'extraordinaires, hein, 370 000 enfants, 380 000. En trois étapes, ils ont fait un balayage complet de tous les enfants dans une zone absolument considérable. Quel est le résultat de tout ça? C'est que on l'a ici. Au total, il y a 159 cancers de la thyroïde qui ont été détectés. Mais ce qu'on constate, c'est que cette grande campagne sur 400 000 a été faite sur des zones où il y avait eu des retombées. Et ils avaient des zones témoins sans retombées. Ils ont eu les mêmes niveaux de cancer de la thyroïde dans des zones sans retombées et dans des zones avec retombées. Alors, je suis prudent. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a eu zéro cancer de la thyroïde lié à Fukushima. Je dis que s'il y en a eu, c'est extrêmement peu, et en tous les cas, pas mesurable par rapport au lot habituel des cancers de la thyroïde qui arrivent naturellement. D'accord ? C'est ce qu'il faut dire. Donc, alors, en ce qui concerne les travailleurs, alors les travailleurs, bien sûr, le cas va être différent, parce que là, il y a ceux qui ont travaillé sur le site, en particulier la première année. Alors, la première année... Face à l'urgence, il y a eu une autorisation exceptionnelle donnée par le gouvernement japonais de 250 millisieverts par an pour les gens qui sont intervenus pendant la première année. C'est une norme qui a disparu à la fin 2011, en novembre-décembre 2011. Donc 250 000. Il faut savoir que même dans un pays comme la France, quand il y a un problème vital, moi j'ai été patron d'installation nucléaire, si vous avez un problème vital dans une installation où il y a beaucoup de radioactivité, mais il y a un gars qui est blessé, et si on ne va pas le chercher, il est foutu, on peut autoriser un volontaire à faire une opération très rapide pour aller chercher le blessé, le ramener, et à condition d'avoir estimé que ce soit quand même un peu inférieur à 400 ou 500 millisieverts. Donc il y a des règles pour les cas d'accident. Globalement, ça c'est pour vous, je le montre, c'est la commission locale d'information de la Hague a fait un voyage à Fukushima l'année dernière. Et ils sont partis avec des dosimètres, et ils ont fait marcher leurs dosimètres en permanence au cours de leur balade. Alors, c'est intéressant de voir ce qu'ils ont fait, parce que là, ils s'approchaient de Fukushima, ils ont visité le village de Minasoma, qui est une zone interdite, ils ont vu un pic de radioactivité, ils ont vu Nami, Litat, Soma, tout ça sont les villages qui sont encore interdits aujourd'hui. Et donc là, on voit effectivement des pics d'activité. Ailleurs, il n'y a pas grand-chose. À Tokyo, c'est très bas, c'est pas plus qu'en France. Alors ça, c'est Fukushima, et là, ils étaient à 40 mètres du réacteur. S'ils étaient restés à 40 mètres du réacteur pendant 500 heures, ils auraient eu 20 millisieverts, c'est-à-dire leur dose annuelle. Ça vous donne un ordre de grandeur. Alors là, si vous progressez, ben là, c'est leur voyage en avion. Parce qu'ils ont pris pendant leur voyage en avion, ça montre ce que je vous montrais tout à l'heure sur les jeunes cadres dynamiques. Alors, le résultat chez les travailleurs, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des surdoses. Il y a eu des surdoses en 2011 à 99%. C'est-à-dire les premiers mois avant qu'ils aient nettoyé le site. Et en gros, vous voyez que par rapport à la norme japonaise, qui est maximum 50 mm, 50 par an et 100 sur 5 ans, il y a à peu près 3000 personnes qui sont au-dessus de 50. Si je prends la valeur de 100, hein, je vous ai dit tout à l'heure, la limite entre faible et forte dose, au-dessus de 100, il y a un peu moins de 200 personnes. Donc ils ont pas mal contrôlé l'affaire, malgré des contaminations qui étaient quand même très sévères. Là, vous avez janvier, là, il y a deux mois, ben, vous voyez qu'en janvier, il y a une seule personne au-dessus de 10. Donc ça veut dire qu'ils maîtrisent bien. Là, c'est sur un peu moins d'un an. Alors sur un peu moins d'un an, vous voyez qu'entre 20 et 50, il y en a 65. Ben pourquoi? C'est quand il y a une manip comme celle que je vous ai montré le film tout à l'heure, ben vous envoyez des gens dans les réacteurs, et là, ils ont ce qu'on appelle, ce sont des interventions programmées, complètement préparées, pour que ça aille le plus vite possible dans les meilleures conditions, mais là, c'est clair qu'ils prennent un peu plus de rayonnement, et c'est fait avec des travailleurs qui ont été formés pour ça, et qui sont d'accord pour le faire. Donc, vous avez un peu plus, mais vous voyez quand même que sur un site sur lequel il y a eu 14 000 personnes qui sont passées dans ces 8 mois, pratiquement au-dessus de 20 millisieverts, il n'y en a que 65. C'est vraiment très peu. Alors, l'impact sur la santé, bon, je ne vais pas commenter ça parce que ça nous mène un peu plus loin. L'Organisation mondiale de la santé estime des pourcentages de cancers en excès liés au rayonnement. Et ces pourcentages en excès, vous les appliquez à la population qui a pris le plus de rayonnement. C'est en général un millier quand on parle de la population et quelques centaines quand on parle des travailleurs. Eh bien, on s'aperçoit que, par exemple, si vous prenez sur les 1000 personnes qui étaient au-dessus d'un millisievert, vous rajoutez 0,1%, ça fait peut-être un cancer de rajouté, alors que naturellement au Japon, entre 30 et 40% des gens ont un cancer dans leur vie. Donc c'est totalement non mesurable. Donc je suis très prudent, je ne dis pas qu'il n'y aura aucun cancer de la thyroïde ou de n'importe quoi autour de Fukushima, mais en nombre, par rapport à la même population qui sont à 300 km ou à Tokyo, ça ne se verra pas. Par contre, sur un plan psychologique, ça c'est plus difficile, parce que celui qui va attraper un cancer, vous aurez du mal à le convaincre qu'il n'est pas lié à Fukushima. Donc vous voyez qu'il y a, derrière ça, il y a quand même des questions psychologiques qui vont être extrêmement fortes, et qu'on ne sait pas bien gérer. Passer très peu de temps, aujourd'hui, produits agricoles, il n'y a presque plus d'interdictions, sauf bien sûr dans les zones interdites. Mais les zones qui ont été réhabitées, dans lesquelles ils font du riz, dans lesquelles ils font des cultures, tout est autorisé aujourd'hui. L'Europe a réautorisé l'importation des produits japonais venant de la préfecture de Fukushima sur la quasi-totalité des produits, sauf quelques-uns qu'on connaît. Il y a des champignons qui cumulent le césium, etc. Mais globalement, c'est revenu. Et même là, il y a eu le mois dernier une déclaration de Fukushima disant que dans les écoles, ils sont revenus à un pourcentage de produits locaux qui était le même que celui avant l'accident. Ce qui est un signe qu'ils ont réaccepté maintenant de consommer leur propre production. En ce qui concerne les poissons, là pareil, ce qu'on peut dire, c'est que l'eau qui est rejetée en sortie du port, quasiment rien de détectable, sauf un peu de tritium qui se dilue très vite. Donc pour tout ce qui est poisson en eau vive, il n'y a aucun problème. Ils peuvent être consommés, même si encore, ils gardent des restrictions. Parce que sur un plan psychologique, le poisson de Fukushima, les gens de Tokyo ou les gens d'Osaka n'ont pas envie d'en prendre. Donc ils ont un problème et leur pêche aujourd'hui, ils sont à 10% de ce qu'elle était avant l'accident. Donc un impact. Bon, il faut dire qu'en même temps, les bateaux ont été bousillés, les ports ont été détruits. Enfin bon, faut imaginer que derrière ça, il y a eu tout le tsunami. Alors le seul problème qui se pose, c'est sur à peu près une centaine de kilomètres, c'est qu'il y a pas mal de sédiments qui sont arrivés à la mer, qui étaient chargés en contamination. Et ce qui veut dire que quand on va dans des poissons qui sont appelés des poissons de roche, ceux qui sont vraiment dans les sédiments, ceux-là en principe ne sont pas consommables. Mais c'est relativement mineur. Alors, où en sommes-nous des évacuations ? Alors, au départ, l'évacuation, je vous avais indiqué, c'est à peu près ce volume-là. Et dès les premiers mois, ils ont été conscients du fait qu'il y avait des zones qui seraient assez difficiles à récupérer. Alors, d'autant plus qu'on est dans une zone qui est assez peu peuplée, assez montagneuse ou collineuse, avec beaucoup de forêts. Et c'est évident qu'autant ils se sont préoccupés des zones urbaines et des zones agricoles en termes de décontamination, autant au niveau des forêts, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Donc globalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous avez ici des données qui sont celles de l'année dernière, vous voyez, octobre 2017. Pratiquement, cette zone-là est toujours fermée et je pense qu'elle ne va pas être réouverte très vite, même s'ils vont la réouvrir par petits bouts. Ça devrait s'ouvrir cette année. Et c'est à comparer, donc, cette zone-là, c'est pratiquement la même que celle qui est indiquée ici. Donc, il y a déjà eu une forte récupération de terrain. Les retours des populations, ça a été coup-ci, coup-ça. Parce que, déjà, il y en avait beaucoup qui étaient partis s'installer ailleurs. La deuxième question qu'il y a, c'est que les gens qui avaient été évacués, on leur avait mis des cabines à disposition, des mobile homes. Et dans ces mobile homes, ils avaient droit à un petit chèque tous les mois pour vivre. Ils étaient logés gratuitement et puis ils avaient 500 euros ou 600 euros par mois pour se nourrir. Et en mars l'année dernière, le gouvernement a dit, dans tous les territoires qu'on a à nouveau autorisés, à partir de mars 2017, plus d'aide. Coupe les fonds. Donc là, ça a amené des gens à revenir, d'accord, un peu forcé. Mais alors, ce que dit la préfecture de Fukushima par rapport aux 160 000 personnes qui ont été touchées, ça, c'était ceux de la préfecture, ça, c'était ceux de préfectures voisines. Eh bien, aujourd'hui, ils disent que il ne reste plus que 20 000 évacués, mais que en revanche, dans des zones plus éloignées, il en reste encore 34 000. Mais donc, alors maintenant, ça ne veut pas dire que tous ceux-là sont revenus. Ça veut dire qu'ils ne reviendront jamais. Hein. Donc il y a ceux qui sont revenus et ceux qui ne reviendront jamais. Et ça, c'est très difficile d'avoir une idée précise de comment ça se passe. Et vous pouvez le comprendre. Donc ça, c'est l'État. Donc on est un peu sur le bilan. Hein. J'arrive un peu à la fin de mon exposé sur le bilan. Conséquences sanitaires, impact indécelable, mais non nul, forcément non nul, mais indécelable. Il y a eu beaucoup d'analyses médicales de la population. Il faut voir qu'il y a des gens, on a parlé d'un homme de 102 ans qui, quand on lui a demandé d'évacuer, s'est pendu. Sa famille a obtenu 130 000 euros de compensation. Il y a des gens qui avaient leur jardin qui se sont trouvés dans un petit cabanon. Il y a eu des dépressions, il y a eu des suicides, il y a eu des problèmes cardiovasculaires qui ont été reconnus comme conséquence du stress lié à l'accident. Il y a un an, on disait qu'il y avait, en décembre 2016, on attribuait à peu près 1800 décès prématurés liés à ce stress à Fukushima. Aujourd'hui, je crois qu'on parle d'environ 2200. Ce sont des chiffres. Moi, je ne sais pas qu'en dire, mais c'est la réalité d'une catastrophe. Il restera entre 300 et 400 km² de territoire qui vont être difficiles à récupérer, ou tout simplement qu'on va considérer, ça ne vaut pas la peine de s'enquiquiner, ce sont des forêts, hein, et on va le rendre à la nature, parce qu'on sait que autour de Tchernobyl, la nature a repris ses droits, autour de Tchernobyl, avec énormément d'animaux. Donc, pas impossible que la décision soit de dire « c'est trop cher, on laisse comme ça ». Le coût du démantèlement est estimé à peu près 200 milliards d'euros, 107 pour le démantèlement proprement dit, 71 milliards pour dédommager les gens qui ont été gênés, et puis 14 milliards pour le stockage des sols contaminés. Alors derrière ça, c'est intéressant de regarder, de se rappeler le tsunami. Le tsunami, le dernier chiffre, c'est 16 500 morts, 560 km², je vous parlais de 300, 400 là, il y a à peu près la même surface qui n'est plus habitable. Alors ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas réutilisable. C'est une surface dans laquelle on peut cultiver, éventuellement faire des activités industrielles, à condition d'avoir de bons plans d'évacuation. Mais les gens ne pourront plus y habiter. Donc 560 km² où on ne peut plus habiter. Les traumatismes psychologiques, ils ont évalué là aussi, il y a deux ans, 1400 décès prématurés. Donc, des dégâts assez considérables aussi. Il y a eu 126 000 maisons emportées, 740 000 bâtiments détruits, plus les usines, puisque vous avez vu. Il y a eu 53 000 habitations provisoires, et ils ont déjà dépensé 236 milliards pour nettoyer tous ces terrains et gérer tout ça. Et ils ont également à gérer 22 millions de tonnes de déchets, parce qu'il faut voir que derrière ça, il y avait beaucoup d'usines, beaucoup de produits chimiques, beaucoup de tout ce qu'on voudra. Donc c'est simplement pour rappeler que, en fait, ils ont la double catastrophe en face d'eux. Une qui a fait énormément de morts, et l'autre qui en a fait peu directement, mais quand même pas mal indirectement. C'est ce qu'on peut avoir en tête. Qu'en font-ils les Japonais ? Ben, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, ils ont remplacé le nucléaire par du gaz, du charbon et du fioul. Ils ont lancé un programme développement des énergies renouvelables qui aujourd'hui, au bout de 7 ans après, pèse à peu près 5% de leur production. Mais globalement, aujourd'hui, l'électricité, elle est faite avec des combustibles fossiles à 84%. C'était 91% en 2014. C'était 61% avant. Pour un pays qui a le protocole de Kyoto sur la lutte contre le changement climatique, ça les gêne beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Derrière ça, ben, assez curieusement, Il y a eu un grand débat sur l'énergie, et ils ont élaboré en 2014 ce qu'ils appellent le Japan Basic Energy Plan. Ou que disent-ils? Ben, ils disent, en 2030, nous programmons d'avoir le nucléaire qui soit à environ 20-22%. Nous prévoyons d'avoir des énergies renouvelables qui augmenteraient jusqu'au niveau 20-22%, et on serait encore à une grosse moitié de charbon et de gaz naturel en 2030. Donc, assez curieusement, quand on voit ce qui se dit en France dans les médias, c'est que les Japonais ont décidé qu'ils avaient besoin du nucléaire. Ils sont comme nous, ils n'ont pas de pétrole, pas de gaz, pas de charbon. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y avait une soixantaine de réacteurs. Il y en a une... Bon, c'est le chiffre exact, je ne connais pas, c'est de l'ordre de 12-14. Ils sont définitivement arrêtés. Ils ont décidé, soit ils étaient anciens, soit qu'ils ne veulent pas les redémarrer. Donc ceux-là, ils vont être démantelés. Ils ont deux réacteurs qui sont en construction. Et ils ont autorisé la poursuite de la construction. Et ils ont aujourd'hui 11 réacteurs qui sont autorisés à fonctionner. Les deux derniers, c'était il y a un mois. Hein. Et ils viennent... sur ces 11 réacteurs, il y en a 9 qui sont des réacteurs comme les nôtres, réacteurs à eau pressurisée, avec le même système de sûreté de nous. Et ils viennent d'autoriser les deux premiers réacteurs à eau bouillante, qui sont en fait des réacteurs beaucoup plus modernes, à fonctionner. Alors ceux-là ne sont pas encore en marche, mais ils vont bientôt démarrer. Et puis il y a un réacteur de plus qui a déjà l'autorisation de démarrer, mais en 2020, puisqu'il y a des travaux à faire. Ces réacteurs sont pratiquement tous sur la côte ouest, ce qui est une côte qui n'est pas soumise à tsunami. Donc on sent bien la prudence de l'autorité de sûreté qui a dit « Oula, la côte est qui est soumise à tsunami, je vais bien réfléchir avant d'autoriser des redémarrages. » Donc pour le moment, ce n'est pas encore fait. Ils sont tous dans des zones protégées. Ils font des travaux incroyables, parce que pour faire face à tsunami, bah par exemple, vous avez un réacteur de Hamaoka, qui n'est pas encore autorisé à démarrer, mais ils ont fait un mur de 1,6 km de long et de 22 mètres de haut, qui est un mur anti-tsunami. Et donc, sur cette base-là, avec en plus pas mal de travaux pour rendre les réacteurs encore plus sûrs, ils sont en train de demander le redémarrage. C'est un pays qui a besoin d'énergie. C'est un pays qui est soumis à la pression du changement climatique, où on leur explique qu'il ne faut pas qu'ils brûlent du charbon et du gaz. C'est un pays où l'éolien ne marche pas très bien. C'est un pays où le solaire est intéressant, mais il en faut beaucoup. Donc, pas facile. Alors, on a tiré des leçons en France aussi. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'après TMI, on avait fait beaucoup de modifications. Ben, en France, il y a eu beaucoup de réflexions. Alors, la première chose, il y a ce qu'on appelle des stress tests qui ont été faits au niveau européen, où il y a eu des équipes multinationales qui ont visité chacun des réacteurs, qui ont été regardés si nos réacteurs étaient solides et si un événement du type Fukushima pouvait arriver. Aucun de nos réacteurs n'a été considéré comme pouvant avoir un accident de ce type-là, compte tenu de ce qu'on avait déjà fait. C'est-à-dire que ce que nous avions fait pour TMI était parfaitement convenable pour résister à Fukushima. Il faut savoir que nos réacteurs, si vous avez des ruptures de barrage dans les Alpes, ils sont faits pour résister déjà à ça. Ça n'a pas été sous-estimé, alors que leur tsunami avait été sous-estimé. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Malgré tout, il y a eu des tas d'études complémentaires de sûreté et la sûreté a décidé de donner un tour de vis supplémentaire. Ce qui veut dire que des séismes, par exemple, qui avaient été estimés sur des données historiques ou voire proto-historiques, ces séismes, on a encore augmenté d'un cran le niveau. On a augmenté d'un cran le niveau des inondations des rivières ou des phénomènes qu'on peut y avoir dans les estuaires. On a augmenté d'un cran la violence des vents. On a augmenté d'un cran tout. Donc, on a demandé à chaque installation de vérifier qu'elle résistait à ce cran supplémentaire. Ça, c'est fait. Et puis, il y a eu une troisième décision qui a été très importante, qui est intéressante sur un plan philosophique. C'est que on a pris une approche qui n'était pas du tout probabilistique, mais qui était déterministe. Le patron de l'autorité de sûreté a dit, voilà, vous avez un réacteur, vous un site avec 4 réacteurs. Il y en a plein en France, hein. Eh bien, je vais prendre une hypothèse. Je suis incapable de dire comment ça peut arriver, mais je vais prendre l'hypothèse que les 4 cœurs fondent. Je ne veux pas savoir comment. Ils fondent. Je veux que vous soyez capable de maîtriser la situation de telle sorte que je n'ai pas besoin d'évacuer les populations, ou en tous les cas, uniquement par précaution pendant très peu de temps. Donc, ça a été une décision. Et à partir de là, on a bâti. Et ça a été fait, je dirais, avec, en bon accord avec les exploitants. Et donc, on a lancé tout un système. Alors là, vous avez toutes les normes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait ce qu'on appelle la doctrine du noyau dur. C'est-à-dire qu'on a construit des systèmes qui sont complètement indépendants de ces quatre réacteurs. Et il y en a un pour chacun. Qui est un système où il y a une source d'eau, une réserve d'eau. Alors ça peut être un lac, mais ça peut être aussi un puits qui va dans les nappes phréatiques et qui est capable de pomper de l'eau. Il ne faut pas beaucoup de mètres cubes, hein. Il faut quelques dizaines ou quelques dizaines de mètres cubes pour refroidir un cœur qui est à l'arrêt. Ce n'est pas considérable, hein. Donc, réserve d'eau, un bâtiment hyper bunkérisé, capable de résister à tout. Ils sont montés sur des plots antisismiques dans lesquels vous avez diesel, pompe, et on est capable d'injecter de l'eau directement dans le cœur du réacteur. Pour vous donner une idée du bâtiment qui contient ça, vous voyez ici, vous avez des petits personnages. Et bien là, vous avez le bâtiment dans lequel il y a des diesel et pompes et autres. Il y en a un comme ça pour chaque tranche, pour chaque réacteur, sur les 58 réacteurs français. Et donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a fait une deuxième salle de contrôle, qui est un bunker, qui fait que les exploitants, si tout part en quenouille, peuvent se mettre là-dedans. Ils gardent les moyens de commander d'urgence et ils sont totalement protégés. Donc ça, c'est également déjà fait. C'est on construit des bunkers de commande. Troisièmement, plein de systèmes experts. Et puis, en dernier lieu, les exploitants, et en particulier la CELCA d'EDF, ont mis en place ce qu'on appelle la force d'action rapide nucléaire EDF. C'est-à-dire qu'on part d'un principe d'une grande catastrophe, on a perdu l'électricité, les rivières sont polluées parce qu'il y a des arbres, il y a eu un barrage qui s'est écroulé, enfin, on imagine, je ne sais pas quelle horreur. Et bien, il faut qu'on soit capable d'amener des gens qui sont capables d'aider les exploitants, de les remplacer quand ils sont fatigués, alors qu'on ne peut plus bouger nulle part. Donc, ils sont lourdement équipés de camions, d'hélicoptères, de moyens. Là, vous avez un garage d'une de ces quatre installations qui sont à Bugey, Civaux, Dampierre et Paluel. Ce sont des équipes de 14 personnes en permanence dans chaque site, ce qui veut dire que en cas d'accident, en moins de 24 heures, ils doivent être sur site pour relayer les équipes de terrain avec leur propre matériel pour que même si le noyau dur ne marche pas, eux puissent amener un second noyau dur. Donc ça, c'est le résultat. Et ça, c'est 5 milliards d'investissements pour EDF qui sont en grosse partie faits aujourd'hui. Ça se fait sur chaque tranche au fur et à mesure des grands arrêts. Donc ça, c'est le retour d'expérience. Et ben, l'objectif, c'est d'éviter ça, parce que ce qu'on veut, c'est qu'on n'ait pas à nettoyer complètement les sols comme on l'a fait là. Là, vous voyez dans une école, les gens qui, mètre par mètre, viennent mesurer et enlever morceau par morceau tout ce qui crache. On ne veut pas ces tas de déchets qui sont accumulés, qui ne sont pas très radioactifs, mais qui encombrent. Donc c'est ce qu'on veut éviter et on arrive là à la fin de mon exposé, un peu dense, mais je crois que c'est un sujet qui méritait d'avoir une vision un peu globale.
Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé effectivement dense. Et voilà, donc vous pourrez réviser, puisqu'évidemment on va le mettre sur le site là. Et on... Alors vous avez, c'est le moment de poser des questions.
J'ai une question, s'il vous plaît.
Oui.
Vous avez eu un discours très très rassurant. Une chose qui me choque profondément, c'est Gravelines. Parce qu'à Gravelines, vous avez juste à côté un énorme stockage de gaz naturel liquéfié.
Oui.
Et moi, franchement, ça me... Je sais pas, ça me choque.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est pris en compte dans le dimensionnement.
Oui.
C'est la règle, c'est la loi. Bon, alors maintenant, moi je ne suis pas expert de Gravelines ni du stockage de gaz liquéfié, donc je ne peux pas vous répondre en ayant une information. Ce que je sais, c'est que... Alors moi, j'ai exploité de nombreuses installations nucléaires. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en face de l'IRSN, qui est en face de nous, toutes les agressions externes possibles donnent lieu à calcul de ce qui peut arriver, avec les ondes de pression, les ondes de choc, etc., les ondes de chaleur, donne lieu à calcul. Ce calcul est fait par l'exploitant. L'IRSN fait ses propres calculs et a ses propres installations, parce que, pour dire ça, on a des installations d'essai qui nous permettent de qualifier beaucoup de choses, qualifier nos modèles. Et il y a une confrontation entre l'IRSN et l'exploitant pour dire ça tient ou ça tient pas. Si ça tient pas, on démarre pas. Donc, moi, ce que je peux vous dire, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a les ruptures de barrages. Moi, je connais bien Grenoble. La rupture du lac de Monténard, au bout de 40 minutes, 9 mètres d'eau à Grenoble. Des réacteurs de Bugey, pas de problème. 9 mètres d'eau à Grenoble. Donc je dis, des catastrophes, on sait qu'ils peuvent s'en produire, gravissimes, on le sait bien. Hein. Dans le cas que vous me citez, moi j'ai une conviction, mais je n'ai pas une connaissance. Ma conviction, c'est que c'est pris en compte.
J'espère.
Non, mais je vous le dis tel quel. On a eu un événement qui a beaucoup bousculé, c'était pas à Gravelines, c'était au Blayais. Au Blayais, il y a 7 ou 8 ans, il y a eu un événement un peu exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a eu une grande tempête de vent d'ouest qui s'est faite à un moment d'une marée, une grande marée, et qui était une marée rentrante dans la sueur de la Gironde. Et donc, une partie du site de Blayais a été inondée. Bon, ils ont gardé la quasi-totalité de leur diesel en bon état de marche. Il n'y a pas eu d'accident. Mais suite à ça, ça a beaucoup bousculé. Parce que là, on s'est aperçu que, un peu comme ça a été au Japon, on avait sous-estimé l'effet d'estuaire. C'était un effet d'estuaire, hein, qu'on retrouve dans les tsunamis. Depuis, toutes les digues ont été rehaussées. Et je crois même qu'il y a encore un cran de plus qui a été donné suite à Fukushima. Donc on a eu en France, alors c'était pas, on n'a pas voulu ignorer quelque chose qu'on savait, c'est qu'on a été surpris de le voir arriver aussi haut. Mais ça nous est arrivé, hein, il ne faut, faut pas le cacher.
Michel ?
Les travaux, c'est TEPCO qui paye tout ça ?
Normalement, c'est TEPCO qui va tout payer. Alors maintenant, quels sont les petits arrangements ? Parce que vous voyez qu'on est en face de sommes considérables, on est en face de travaux qui vont être sur du très long terme. Je pense que derrière ça, il doit y avoir, de la part du gouvernement japonais, au moins des ce que j'appellerais des prêts, avec obligation de remboursement plus tard. Normalement, c'est à TEPCO de le payer.
Deuxième question. J'ai vu qu'il y avait Saint-Laurent dans les incidents. Qu'est-ce que c'est ?
Alors ça, c'était la génération précédente. C'était les réacteurs à graphite gaz, dans lesquels il y a eu des fusions de quelques combustibles. C'était pas des fusions de cœur. C'était... je sais plus exactement les conditions. Il y en a eu deux. Les réacteurs graphite gaz sont des réacteurs qui étaient quand même très compliqués.
Quel est le principe utilisé pour décontaminer l'eau au Japon ?
Alors, je suis pas chimiste. Je suis très incompétent. Ils font de l'extraction de césium, l'extraction de strontium, qui sont les principaux. L'iode, il n'y en a plus. Hein, c'est plus un problème.
En fait, hein, on précipite les...
Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils mettent trois ou quatre méthodes successives pour arriver à une décontamination très élevée. Hein. Ils descendent à des valeurs qui sont niveau non détectable. Hein. Je ne connais pas. Il y a des résines échangeuses d'ions, il y a de l'évaporation avec condensation, il y a... par étape, pour arriver au bon niveau. Mais ils ont mis pratiquement 2 ans et demi à démarrer. La première installation d'épuration a été fournie par Areva, qui faisait déjà pas mal de boulot, mais c'était un peu difficile. Et ils les ont remplacés par des installations beaucoup plus complètes après.
Je crois que les gens de notre génération ont été formés au fait que le nucléaire civil se développait, qu'on avait domestiqué la tour, et qu'à côté de la bombe qui elle-même était expérimentée, on allait avoir quelque chose de sûr. Or, quand les catastrophes sont arrivées, on a découvert que Hiroshima a été reconstruit sur lui-même. Il n'y a pas de zone interdite à Hiroshima.
Non.
Alors que là, ce qu'on nous avait présenté comme très sûr conduit à 40 000 hectares interdits définitivement. Il y a eu, alors bon, l'explication est que dans, et là on était, l'opinion publique a été un peu trompée, me semble-t-il, c'est que dans un réacteur nucléaire, les quantités de matière radioactive sont bien plus élevées que dans une bombe. Et ça, ça n'a jamais été.
En particulier le césium. En particulier le césium, qui est un produit fission à vie longue et qui s'accumule très longtemps. Tout à fait. Hein. La grande différence, c'est que la bombe est très violente, mais avec une quantité de radioactivité qui est très faible. Enfin, relativement faible. Quand je dis très faible, il ne faut pas exagérer. Relativement faible. Je crois que Là-dedans, moi, je voudrais quand même faire un petit rappel. Vous allez sur le site internet de l'Agence européenne de l'environnement, qui a sorti un rapport sur la pollution en Europe. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit, ce rapport ? Il dit que chaque année, 500 000 personnes meurent de manière un peu prématurée, bon, quand je dis un peu, à cause de la pollution atmosphérique, qui n'est pas nucléaire. En France, c'est 50 000. Est-ce que les gens s'inquiètent de 50 000 morts prématurées en France tous les ans, grâce au pétrole de nos voitures, au chauffage de nos maisons ou aux centrales électriques à charbon et à lignite allemande? On en parle très peu. C'est 50 000 par an. Une mort prématurée, c'est la même chose qu'un cancer. Hein. C'est une mort prématurée. Donc, faut pas oublier ça. Donc, là-dessus, moi, je suis conscient du fait que vous savez, moi, j'ai été exploitant nucléaire. La dernière chose que vous souhaitez, c'est de voir un de vos employés se faire irradier. Hein. C'est vraiment pas ce qu'on cherche. Alors, a fortiori, la population. Aujourd'hui, moi, je persiste à dire que sous réserve qu'on ne fasse pas les mêmes bêtises qui a été fait au Japon, et je pense que ce que je vous ai dit sur les évolutions de nos réacteurs sont intéressantes, moi, je considère aujourd'hui que la France est un des pays qui a l'atmosphère la plus propre d'Europe, grâce à notre nucléaire. Grâce aussi au fait qu'on est en vent d'ouest, grâce à un tas de choses. Hein. Faut pas perdre ça de vue aussi. Faut savoir, à un certain moment, faire une comparaison des deux mondes. Mais bon, pour ça, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Madame là-haut, une seconde, chacun son tour.
Allez.
Oui. Ben, moi, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a une surmortalité autour de Fukushima qui est liée à deux phénomènes dramatiques qui sont les évacuations liées à Fukushima avec des gens qui ont été totalement bousculés dans leur vie et les évacuations liées au tsunami. Mais si vous regardez les rapports de la santé japonaise, ils ne vous donnent aucune évolution mesurable de surcancer à Fukushima par rapport aux autres préfectures.
Il faut aussi savoir qu'il y a des accords passés entre l'OMS et l'AIE en tout les résultats sont...
Non. Vous savez Madame, moi je veux bien, on peut douter de tout le monde, hein, on peut douter de tous, c'est clair. Moi j'ai tendance à douter de Greenpeace. Bon, vous voyez, je suis dans l'autre sens. Hein. Mais, je dis comme ça. Ce que je veux dire, c'est que l'OMS, dans l'OMS, vous avez qui ? Vous avez des biologistes et des médecins autrichiens, ils sont antinucléaires. Allemands, ils sont antinucléaires. Hollandais, ils sont antinucléaires. Ils font partie des gens qui ont fait ces dossiers. Et vous croyez qu'ils auraient truqué le résultat ? Moi, je n'en crois rien. Je suis désolé. L'Organisation mondiale de la santé, alors après ça, on pourra nous dire que c'est un grand bazar administratif, est-ce qu'ils sont près du terrain ? On peut dire des tas de choses. Mais je pense qu'en termes d'équilibre des représentations des gens qui sont antinucléaires ou pas antinucléaires, je pense que c'est très bien équilibré. Donc moi, je n'ai pas de souci là. Mais il y a des accords de l'IRSN, il y a des accords de l'IRSN chez nous, avec eux. Et l'IRSN, je peux vous dire que, moi je les ai eus sur le dos pendant 40 ans, je peux vous dire qu'ils minimisent jamais ce qui se passe. Hein. Faut toujours faire attention. Bon, on peut rentrer dans des fake news, il y en a des tas. Hein. Ouais. Il y en a des tas.
Bien, on va remercier Monsieur Pervès d'être venu. Il y avait encore une question ? Allez, oui, allez, tu, la dernière.
La sécurité. Est-ce qu'avec toutes ces améliorations qui ne sont pas bon marché, le nucléaire reste compétitif ? Ça semble-t-il au renouvelable qui, ces derniers temps, a considérablement chuté.
Bon, j'ai écoutez.
Vu un graphique, je
pense que
c'est le point où, où le nucléaire, qu'on va appeler ancien, parce que c'est le nucléaire ancien, était pas compétitif. Et alors, je ne sais pas ce que c'est que le nucléaire nouveau. Alors là, c'était trois fois les trois.
Bon, moi, je veux bien comprendre les chiffres. Quels sont les chiffres actuels ? L'éolien. Tel qu'il a été fait depuis 10 ans, il est acheté à peu près 90 euros le mégawattheure. Le solaire, sous forme de grande installation au sol, c'est de l'ordre de 150 en France. Sur le toit des maisons, c'est de l'ordre de 250. EDF est obligé de vendre à ses concurrents son courant électrique à 42. Il est obligé de vendre le tiers de sa production à ses concurrents pour 42 euros, alors que, pour que les concurrents puissent se développer. 42 euros, vous le comparez au chiffre que vous avez donné. Je suis désolé, on n'en est pas là aujourd'hui, loin de là. Deuxièmement, moi je veux bien qu'on compare le coût du solaire, de l'éolien, mais il y en a un qui vous donne du courant quand vous en avez besoin, il y en a un qui vous donne du courant pour le vent quand il y en a, et pour le solaire, plutôt l'été et pas l'hiver quand vous avez besoin d'énergie. Donc, il faut regarder ce que représente le prix. Un prix ne peut être comparé que s'il apporte la même garantie.
Donc, j'étais très étonné des graphiques que j'ai vus, ils sont tout récents.
Je peux vous dire que les EDF, pour prolonger de minimum 10 ans et espère-t-il de 20 ans, les réacteurs actuels, passer de 30 à 40 ou 50 ans, sachant que les mêmes réacteurs sont déjà autorisés à 60 aux États-Unis, d'accord ? Il ne faut pas l'oublier, ils vont mettre 50 milliards sur la table. Mais leur prix va rester très compétitif. Vous rajoutez les 5 milliards du post-Fukushima, ça fait 55 milliards.
Bon, alors j'ai une réponse générique à tous vos échanges, parce qu'en fait c'est un sujet qui est très complexe. Donc, a priori, l'année prochaine, j'aurai le professeur Percebois, qui est à l'Université de Montpellier, qui est un grand spécialiste français de toutes ces questions de l'économie de l'énergie et du nucléaire, qui viendra vous parler de tout ça, mais pas en 5 minutes, pendant une heure et demie, et tu auras le temps de poser des questions. Voilà. Merci.
Merci.